20h-21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 1er janvier 2002. Adieu le franc, bonjour l'euro. Nous sommes le 1er janvier 2002. Les fêtards qui ont réveillonné ont la gueule de bois. Et tous ceux qui ont connu ces lendemains de fêtes difficiles savent à quel point réfléchir est un défi. Et celui d'aujourd'hui est de taille. Depuis ce matin, notre bon vieux franc est obsolète, place à l'euro. Ce 1er janvier 2002 donc, on nous explique que tout est simple. 1 euro est égal à 6,55957 francs. Facile, la preuve.
J'arrive pas à comprendre. Il m'a rendu ça, voilà.
Et ça fait combien?
Un demi euro, je sais pas, 2-3 euros. Enfin non, pas 3 euros. 2,5.
Non.
Un demi.
Ah non, ça c'est un centime d'euro.
Voilà, un centime d'euro.
Vous avez 3 centimes d'euros.
3 centimes d'euros, c'est bien, merci.
Pourtant, pour nous familiariser, nous pouvions depuis le 14 décembre 2001 acheter ce que l'on appelait alors un kit de démarrage. En voici l'explication par Laurent Fabius, le ministre des Finances de l'époque.
Pour 100 francs, vous pourrez acquérir l'équivalent en euros et ça permettra d'avoir des euros dans sa poche un petit peu avant le 1er janvier 2002 où on pourra commencer à les utiliser. Ce sera les premiers euros.
L'euro devient donc notre nouvelle monnaie. Et si elle nous apparaît comme parfaitement étrangère, elle était en réalité dans les tuyaux depuis les années 70. Et la décision de la mettre en place dans tous les pays européens date de 1992, lors du traité de Maastricht. Objectif, mettre en place une monnaie puissante pour contrecarrer le dollar et renforcer la compétitivité des entreprises européennes à l'international. N'empêche, dans notre vie quotidienne, l'arrivée de l'euro est un cataclysme. Et encore, je ne parle même pas de ceux qui avaient connu les anciens francs en 1960. On calcule, on convertit et on craint la montée en flèche de certains prix. Exemple, la baguette coûtait à l'époque 4,40 francs, soit 0,67 euros. Mais comme on aime les comptes ronds et qu'ils sont plus faciles à gérer, notre boulanger l'a proposé à 0,70 euros, soit une augmentation de 4%. Et ça, forcément, ça inquiète. D'autre part, certains d'entre nous ont eu le sentiment, en perdant leur repère, de perdre aussi le sens des réalités. S'acheter une voiture à 10 000 euros fait moins mal dans l'annonce que lorsque l'étiquette affichait 65 000 francs. Bref, en ce 1er janvier, les Français perdent le nord en regardant les nouvelles pièces et ces nouveaux billets. Difficile de se faire à la nouveauté.
Ça me plaît pas, la couleur, la forme.
À tel point que 2 ans plus tard, 76% des Français souhaitent le maintien du double affichage franc-euro et 69% le prix en francs d'abord. Alors quelles ont été les conséquences économiques du passage à l'euro? Qui sont les pays gagnants et les pays perdants? Les prix ont-ils réellement augmenté depuis l'euro? Si nous étions en francs, en serions-nous au même point? Et puis risquons-nous un jour de changer encore de monnaie? Notre professeur d'économie ce soir s'appelle François Langlais et il va tout nous expliquer tout simplement jusqu'à 21h. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Bienvenue dans Jour J que vous écoutez chaque soir sur RTL et en podcast. Si les chiffres vous effraient et si les calculs vous rebutent et que vous avez plus de 25 ans, eh bien le 1er janvier 2002 reste dans votre mémoire.
Je crois qu'il y a deux mots qui ont dominé les conversations ce matin. Le mot euro, t'as de l'euro, t'as vu les euros, t'as payé en euros, et l'expression rituelle.
Bonne année, bonne année, bonne année.
Bonne année, bonne année, bonne année. Bonjour François Langlais.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste économique à RTL et à TF1. Pourquoi est-ce qu'on change toujours de monnaie déjà un 1er janvier quand on a la gueule de bois?
C'est vrai que alors c'est une date qui a été longuement pensée, parce que pour nous, on a découvert ça dans les distributeurs le 1er janvier au matin, mais c'était l'aboutissement d'un travail considérable sur 17 pays où il a fallu d'abord imprimer les billets, les acheminer en toute sécurité, faire disparaître les autres. Enfin, c'est la plus grosse opération logistique de tous les temps en matière monétaire.
Et quand on dit 1er janvier, c'est pour démarrer une date symbolique, quoi.
Voilà. En fait, la vraie date de naissance de l'euro, c'est 3 ans avant. Hein. C'est le 1er janvier 99, où on supprime les taux de change entre les monnaies européennes. De fait, donc, un marque vaut 3 francs 36 et 3 francs 35 et ça ne bougeait plus. Mais l'incarnation physique, si je puis dire, c'est-à-dire les billets et les pièces, effectivement, C'était 3 ans après.
Alors, il y avait le fameux petit kit de démarrage qu'on a eu quelques semaines avant, effectivement, qui nous a permis, je dirais, d'apprendre. On avait l'impression de jouer un petit peu à Monsieur, Madame la Marchande. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quand même ce côté très...
Tout à fait.
C'était quand même galère, quoi. C'est galère de changer de monnaie.
Surtout, ça perturbe complètement les ordres de grandeur, vous l'avez dit à l'instant. C'est-à-dire, je me souviens que, d'ailleurs, dans les tout premiers jours de janvier, c'était les soldes. Et il y a une caricature qui est parue dans un journal, je ne sais plus lequel. On voyait un type chargé de paquet, il avait fait des courses, et il disait à sa femme, mais c'est génial, tous les prix ont été divisés par 6,55.
Bah c'est ça.
Donc évidemment, il imaginait que en fait, il allait payer l'équivalent du franc et que les prix étaient plus faibles. Donc ça joue évidemment pour les choses qu'on achète, mais ça joue aussi pour l'argent qu'on reçoit.
Ouais.
Vous gagniez
le salaire n'était plus le même.
6 500 francs, et tout d'un coup, c'était plus que 1 000 euros. Mmh. Donc psychologiquement, vous étiez appauvri. Et il faut se familiariser avec tout ça. Ça prend du temps parce que les prix de la vie quotidienne, on y est très habitué. Même s'ils évoluent régulièrement avec une inflation qui est assez modeste, là, c'était une perturbation très importante. En plus, avec un taux de change sacrément compliqué. Parce que
C'était plus difficile pour les Français que pour d'autres pays
oui,
en Europe.
Parce que pour les Allemands, par exemple, il suffisait de diviser par deux. Un euro, c'était 2 Deutsche Mark. Alors que nous, 1 euro, c'était 6,55 francs.
Ouais.
Donc évidemment, la division par 2, elle est très simple. La division par 6,50, il faut quand même s'y reprendre au moins 2 fois.
Mais pourquoi est-ce qu'on change de monnaie? On va revenir sur l'histoire de l'euro. Mais moi, je me souviens de mes grands-parents qui parlaient en ancien franc. En 1960, on est passé au nouveau franc.
Oui.
Donc déjà, pourquoi?
C'était parce que, si vous voulez, le franc avait été tellement dévalué, il y avait une inflation tellement forte que les prix affichaient beaucoup de zéros.
Ah,
et du coup, par
simplicité, pour des raisons pratiques.
Tout à fait. Le Japon a fait exactement la même opération avec les yens, puisque les yens, c'est une unité de valeur très faible, et on en a supprimé 2 il y a quelques années, de façon à retrouver des étiquettes relativement courtes.
D'accord.
Mais là, la valeur n'était pas fondamentalement changée. Enfin, c'est vrai que pour autant, toute mon enfance, moi j'ai entendu les personnes plus âgées qui parlaient de 10 000 francs pour 100 francs.
Ah, mais c'était incroyable, mon grand-père parlait de millions. Je me disais, mais de quoi il parle? Alors qu'en fait, en réalité, c'était des sommes beaucoup plus raisonnables. Qui décide d'un changement de monnaie?
Le pouvoir en place, l'exécutif. En l'occurrence, la réforme que vous évoquez, c'était De Gaulle. C'était aussi pour donner... Il y avait le côté nouveau franc, nouvelle économie, nouveau pays. Après une phase de réforme, de trouble quand même, la 4ème République. Donc c'était le coup d'envoi d'une nouvelle période pour marquer psychologiquement cela. Pour l'euro, évidemment, c'est autre chose. C'est l'aboutissement d'un long processus politique de rapprochement entre les économies européennes qui a été plein de surprises,
de
chaos, d'années, de retours, etc. Donc c'est toujours une opération politique.
D'accord. Où est-ce qu'on fabrique la nouvelle monnaie?
On la fabrique dans toutes les imprimeries nationales des pays membres de la zone euro. En France, notamment, à Chamalières.
Il n'y a qu'une imprimerie qui fait...
Il y a plusieurs centres. La banque de... En fait, ce sont les imprimeries et les presses, puisqu'il faut aussi faire des pièces, de la Banque de France. Vous savez qu'on a mis l'imprimerie nationale des billets à Chamalières, semble-t-il, parce que c'était le point le plus loin de toutes les frontières, de façon à ce qu'en cas d'invasion, l'ennemi ait beaucoup de difficultés à arriver au cœur de la fabrication des richesses françaises.
Donc ça veut dire aussi que l'euro, on l'a fabriqué donc à Chamalières, et qu'est-ce qu'on a fait après des francs quand on a changé, nous, le 1er janvier?
On les
brûle
détruits. En fait...
Il y a eu plein de Pascal qui ont brûlé comme ça.
Oui.
Pascal, pour ceux qui nous écoutent, c'était le billet de 500 francs.
C'était les billets de 500 francs. Mmh. Et ça fait moins de 100 euros aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une grosse somme.
Attends,
et
on n'avait pas tous... C'était rare. Exactement.
Quand on était dans la mafia, mais ce qui n'était pas notre cas. Mais à un certain moment, je ne sais pas si c'est le cas toujours, parce que de toute façon, au-delà même, si vous voulez, du changement de monnaie, les billets vieillissent au bout de 18 mois ou 2 ans, il faut les changer. Ils sont trop abîmés. Donc on les retire de la circulation et on en met des neufs. Et on faisait les boîtes 2 avec. On mettait,
ah bon?
Oui, c'était une espèce de pâte à papier qui était recyclée pour emballer nos œufs. Vous voyez que c'était un destin qui n'avait rien de glorieux, mais assez utile néanmoins.
D'accord, donc en fait, les Français ont ramené leurs francs, ils ont récupéré des euros en 2002. On a pu utiliser les francs jusqu'au 17 février. Et puis 17 février à minuit, quick, voilà, c'était terminé.
Assez court, en France, contrairement à l'Allemagne, où la période de transition a été beaucoup plus longue.
D'accord, et quid des Français qui avaient amassé des billets, vous savez, sous les matelas, ou qui avaient mis des petites sommes, des piles de billets sous les baignoires et tout? Comment on fait dans ces cas-là?
Pour convertir ça, alors j'imagine qu'ils les avaient acquis de façon sinon frauduleuse, du moins en tout cas en secret. Donc ils ont dû se débrouiller pour le faire aussi en secret, convertir ça ou soit en euros, soit en devises étrangères.
Il paraît qu'on a favorisé ça avec les fameux bons anonymes. On pouvait, à partir d'une certaine somme aussi, venir avec un bon anonyme, genre...
C'est vrai que ça, ça existait. C'est pour ça d'ailleurs que la fiscalité sur ces bons anonymes, comme sur l'or, qui est anonyme aussi, est beaucoup plus élevée, parce qu'il y a toujours une suspicion de fraude. Et du coup, même ceux qui les ont acquis de façon régulière payent une taxe assez forte.
L'euro est donc devenu officiellement notre monnaie le 1er janvier 2002. Voici ce qu'en pensaient les Français un an après.
Les Européens et les Français se sont-ils fait à l'euro? Élément de réponse avec cette enquête de 60 millions de consommateurs. 76% des Français souhaitent le maintien en 2003 du double affichage. 69% à vous rechercher en premier lieu les prix indiqués en francs sur les étiquettes.
Et dites donc, là on l'entend, hein, les Français ont eu du mal à s'y faire. Hein, ils ont voulu ce fameux change, ils voulaient avoir le prix en francs. On a passé beaucoup de temps à calculer comme ça et à toujours faire notre conversion en francs. Maintenant ça va mieux, mais...
Bien sûr, il y avait l'aspect calcul qui est compliqué, parce que c'était une division compliquée, mais il y avait aussi l'aspect, j'allais presque dire affectif. Du jour au lendemain, on a des billets sur lesquels les représentations sont très abstraites. Et vous savez qu'on a choisi, il y a un vitrail de cathédrale, il y a un pont, on a choisi spécifiquement des endroits qui ne pouvaient ressembler à aucun endroit existant, de façon à ne pas vexer les pays membres. Parce qu'au départ, on s'était dit, on va prendre par exemple, Mozart, Einstein, des grands Européens. Si ce n'est qu'il y avait 17 pays, et il aurait fallu avoir 17 billets, parce que chacun voulait évidemment son effigie. Et devant le concert de plaintes des différents États, on s'est dit, on va faire des billets qui ne représentent rien. C'est dommage.
Et c'est dommage parce qu'effectivement, il y a peu d'attachement, mais on est dans une période, et on y reviendra, où l'argent se dématérialise. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez un petit billet de votre portefeuille,
Je vous ai apporté ça. On est à la radio. Mais je vais le faire craquer. C'était un billet de 100 francs. Mais c'est un vrai, bien sûr. Je vous en prie.
François Langlais, vous me donnez 100 balles, attendez.
Et c'était à l'époque la figure de Delacroix.
Exactement.
Donc un grand peintre français, c'était logique qu'on honore ainsi nos citoyens les plus prestigieux. Et c'est vrai que, personnellement, moi en tant que citoyen français et européen, je suis un peu frustré d'avoir aujourd'hui des billets qui ne représentent plus rien.
Et on voit le visage d'ailleurs de Delacroix en
filigrane.
En filigrane, absolument. Juste à côté. Écoutez, je n'avais pas vu de billet comme ça depuis 2002, voilà. Vous l'avez gardé précieusement, vous en avez d'autres comme ça ou pas?
Je n'ai que celui-là, malheureusement.
Écoutez, je vous le rends. Mais merci beaucoup pour cette relique. On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit sur RTL jusqu'à 21h avec notre invité, le journaliste, éditorialiste, économique. Ça en fait des choses, François Langlais. Plein aux as. Vous avez 100 balles dans votre portefeuille.
C'est vrai.
On dit toujours 100 balles d'ailleurs. Pour 100 euros, on dit toujours 100 balles.
En fait, le mot balle s'est déplacé du franc à l'euro.
Exactement. Et vos 100 balles, vos 100 francs, ils valent quelque chose aujourd'hui ou pas?
Je pense que sur le marché des collectionneurs, sans doute, il peut se revendre. Je ne sais pas du tout à quel prix, parce que je le garde précieusement.
Et vous le gardez toujours dans votre portefeuille?
Je l'ai toujours dans mon portefeuille.
Ah, c'est génial, c'est une sorte de porte-bonheur. L'euro est devenu notre monnaie le 1er janvier 2002. Lionel Jospin, Premier ministre à l'époque, ne cachait pas sa confiance.
C'est notre monnaie. Et c'est notre monnaie qui va être vraiment un symbole d'unité de l'Europe et de puissance. Elle va être reçue et accueillie partout, comme le dollar.
L'Europe avait donc besoin d'une monnaie forte pour contrer le dollar. Quelle est l'histoire de l'euro? Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que c'était dans les tuyaux.
C'est vrai, ça commence au milieu des années 70 avec le rapport Werner qui dit « ça serait formidable que les différents pays européens se dotent d'une même monnaie, d'abord pour faciliter les échanges ».
Ce qui est vrai.
C'est vrai, parce que les taux de change sont évidemment différents chacun les uns des autres, mais surtout, ils bougent tous les jours. Donc, ça donne une certaine imprévisibilité pour les entreprises dont on pensait à l'époque qu'elles pouvaient peser sur la croissance. Rétrospectivement, on se dit c'était quand même pas un si gros problème que ça. Et puis surtout, c'était le symbole d'une union toujours plus proche entre les membres. C'est la première phrase du traité de Rome, si vous voulez. Donc, c'était un pas de plus dans l'intégration avec ce rêve qui, lui, alors là, est bien antérieur des États-Unis d'Europe. Là, c'est Aristide Briand dans les années 30, au début des années 30. Donc, il y a une espèce d'incarnation pour les Européens dans cette monnaie commune qui présage la mise en place d'un État fédéral et d'une sorte de grande puissance continentale qui, effectivement, parlerait d'égal à égal avec les États-Unis à l'époque, ou bien l'URSS, puisque le pays existait aussi, aujourd'hui avec la Chine.
Dites-moi, je rêve ou il y a eu l'écu aussi à un moment donné?
Non, vous avez tout à fait raison. C'était
mais
la préfiguration de l'euro. Alors c'était une monnaie fictive, hein, parce qu'elle n'existait que sur les marchés financiers, elle n'avait pas d'incarnation. Il a d'ailleurs été question d'appeler l'euro l'écu. Les Français y tenaient beaucoup, notamment Valéry Giscard d'Estaing, parce que l'écu, ça avait une résonance médiévale, etc. Puis les Français savent ce que c'est qu'un écu. Mmh. Mais les Allemands ont bloqué, parce que cu, en allemand, ça veut dire la vache.
Ah oui?
Oui, donc du coup, c'est pas terrible, quoi. Donne-moi deux vaches...
Je te prends une vache, et donc, comme quoi ça tient un peu de choses. Hein.
Sur la solution la plus, au fond, la plus banale, la plus bête, ouais. la plus évidente, qui était l'euro.
D'accord. Qu'est-ce qu'il fallait pour être un pays éligible à l'euro?
En bonne logique, c'était dans les traités, il fallait avoir des finances publiques saines.
D'accord.
C'est-à-dire pas trop de déficit, pas trop de dettes, pas trop d'inflation. Et puis en fait, plus le temps a passé, plus on a été, je dirais, laxiste sur les critères, au point que la Grèce, qui ne respectait absolument pas les critères, a été rattrapée par le col, parce que les chefs d'État de l'époque ont dit « Bon, c'est une décision politique, mais comment exclure de notre grand projet européen le pays dans lequel la démocratie a été inventée ?» Donc on a mis la Grèce dedans. Quelques années plus tard, on s'est rendu compte que les problèmes de finances publiques de la Grèce étaient bien sérieux.
Voilà, c'était la crise en 2010, on y reviendra. Quels sont les pays qui l'ont refusé?
Les pays d'Europe de l'Est, par exemple. Mmh. Hein, alors, ils ont une position un petit peu ambiguë, parce que la Pologne, la République tchèque... La Slovaquie, en revanche, est entrée dans l'euro, mais la Pologne ou la République tchèque sont de facto liés à l'euro, mais préfèrent avoir leur monnaie nationale.
Et pourquoi, dans ce cas-là, certains préféraient-ils avoir leur monnaie?
Et bien sûr, le Royaume-Uni. Hein,
j'allais vous en parler. Pourquoi?
Parce que ça donne une liberté beaucoup plus grande dans la conduite de la politique économique. Vous n'êtes pas aussi dépendant des autres et vous pouvez, par exemple, faire ce qu'on appelle une dévaluation. La France a fait ça pendant très longtemps, ça veut dire baisser le cours de votre monnaie par rapport aux autres, de façon à exporter plus facilement, parce que mécaniquement, les produits que vous fabriquez se trouvent moins chers.
D'accord.
Et on a fait ça en France tout au long des années 60, 70, même 80, ça s'est arrêté en 87. On se l'est interdit au moment où on a justement pris le chemin de l'euro, en se disant nous en aurons une forme de rémunération un jour, avec une monnaie plus solide, donc des taux d'intérêt plus bas. Le fait est que ça nous a quand même coûté assez cher en termes de part de marché, d'exportation, de compétitivité.
D'accord.
Donc les pays qui justement n'ont pas voulu rentrer dans l'euro, ils voulaient préserver ce levier et le garder en main de façon à conduire une politique économique autonome, indépendante.
En tout cas, pour nous, ça a été un sacré changement d'appréciation, je dirais un sacré bouleversement au quotidien. On a le sentiment que les prix ont vachement augmenté depuis l'euro. Vous allez me répondre dans un instant, oui. Parce qu'on va vous parler de ce que l'on ressent, mais est-ce que c'est une réalité? Vous nous direz tout ça dans la suite de Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci de suivre Jour J jusqu'à 21h. En 2019, on a fêté les 20 ans de l'euro, même si chez nous, l'euro est arrivé en décembre 2001 en réalité. On écoute tout de suite le bilan de François Villeroy de Gallo, qui était gouverneur de la Banque de France.
Je crois que l'euro est un succès. L'euro a apporté une hausse des prix beaucoup moins forte. Les prix augmentent trois fois moins vite avec l'euro qu'avant l'euro. L'euro a apporté des coûts de financement qui sont nettement plus bas pour les Français. Pour vous citer un seul exemple, un crédit immobilier il y a 20 ans, ça coûtait en moyenne un peu plus de 5%. Aujourd'hui, ça coûte autour de 1,5%. Ça fait une énorme différence pour ceux qui empruntent. Et en résultat, l'euro a contribué à plutôt bien protéger le pouvoir d'achat des Français. Je vais le dire avec beaucoup de mesures parce que le pouvoir d'achat, c'est évidemment un sujet sensible.
François Langlais, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Quel est le bilan de l'euro?
En matière d'inflation, François Villeroy de Gallo a raison.
L'inflation, c'est la montée des prix.
C'est la hausse des prix. Voilà. Si on regarde, j'avais fait les calculs très précisément, et si on compare l'évolution des prix dans la zone euro, au Royaume-Uni et aux États-Unis, sur les 20 dernières années, on voit que l'évolution des prix a été plus forte au Royaume-Uni et aux États-Unis qu'en zone euro. Il y a eu plus d'inflation là-bas. Donc ça montre que effectivement l'euro n'a pas été inflationniste. Alors il y a les mécanismes que vous évoquez, l'arrondi, la baguette qui est à 0,67 qu'on monte à 0,70, mais on pense toujours à ce cas de figure là, on pense pas au cas de figure inverse, c'est la baguette qui est à 0,73 et en fait on la met à 0,70, hein, ça existait aussi.
D'accord.
Au total les ajustements de prix sur l'arrondi sont faits à la hausse comme à la baisse au moment du passage, et depuis l'évolution des prix a été relativement modérée, telle qu'elle est mesurée par les indices des prix, mais là il y a des comparaisons internationales qui sont assez fiables. Après, le bilan plus global, à mon avis, il est plus nuancé, parce que, si vous voulez, le problème d'une monnaie unique, comme son nom l'indique, c'est comme un t-shirt à taille unique. Bah, le t-shirt à taille unique, il est trop grand pour les petits, il est trop petit pour les grands.
Ouais, ouais. Hein,
et de ce point de vue, les économies relativement fragiles, en gros, l'Europe du Sud, la France étant un peu intermédiaire, ont plutôt souffert d'avoir une monnaie forte, alors qu'en revanche, les économies d'Europe du Nord, qui sont plus solides, elles, ont profité de cela. Bon, ça renvoie à l'histoire de ces pays-là, leur industrialisation, etc. Il y a une grosse différence entre les buveurs de vin au sud et les buveurs de bière au nord. Mmh. Hein, et de ce point de vue, l'Europe nous a mis tous dans un même paquet. On n'en a pas tiré tous le même profit.
Alors pourquoi François Langlais ? Est-ce que j'ai l'impression que tout est beaucoup plus cher qu'avant ? Si on était resté au franc, ce serait de toute façon, quoi qu'il arrive, plus cher aussi ?
Bien sûr, bien sûr. Et on a connu dans les années 80, les années... Les années 70, des hausses de prix beaucoup plus fortes que celles d'aujourd'hui.
Ah bon ?
Mais beaucoup plus fortes.
Mais donc ça veut dire que dans 20 ans, on paiera encore tout encore plus cher ?
C'est très probable. Chaque année, il y a un peu d'inflation, plus ou moins. Mais il y a des époques, au lendemain de la guerre, on a 45% d'inflation par an.
Ouais.
Par an, hein. C'est-à-dire qu'en deux ans, les prix ont doublé. Donc on n'a plus cette culture-là parce que, justement, les prix sont un peu assagis. Mais malgré tout, ça augmente un peu chaque année et plutôt plus en ce moment, pas seulement dans la zone euro, hein, mais de façon universelle.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Georgie qui fait les comptes ce soir en compagnie de François Langlais. Tout, vous comprenez tout de l'euro ce soir. Ça devient sexy tout à coup, l'euro est notre monnaie depuis le 1er janvier 2002. François Langlais, c'est vrai que l'euro a failli disparaître lors des crises de 2008 et de 2010 ? En tout cas, qu'il a été mis en danger.
Oui, celle de 2010-2012, oui, c'est vrai, bien sûr.
Alors, 2008, on s'était d'ailleurs vu dans ce studio ensemble, parce que c'était la crise des subprimes aux États-Unis, qui ensuite avait inondé évidemment tous les pays. C'est quoi la crise de 2010 ?
En fait, celle de 2008 était une crise financière mondiale, donc tout a failli sauter, l'euro comme le reste, mais à la limite même comme les banques américaines. Hein,
mais quand ça saute, ça fait quoi, pardon ?
C'est-à-dire, si vous voulez, la matérialisation de tout ça, c'est le jour où vous avez des files d'attente devant des banques et que tout le monde se précipite pour retirer son argent en n'ayant plus confiance dans le système bancaire.
Parce qu'il n'y en a plus, quoi.
Parce qu'on redoute. Et du coup, on provoque ce qu'on redoute parce que la panique a un effet déclencheur. On est passé à un cheveu de ça en 2008. Hein, là-dessus, le rôle de Sarkozy a été très important. Parce qu'il a réussi à mobiliser les dirigeants européens. Dimanche soir, je me souviens, j'étais de permanence dans le journal où je travaillais et il a pris la décision de garantir sans limite tous les dépôts des Européens, et heureusement, parce que sinon, tout le monde se serait précipité le lendemain pour essayer de retirer le maximum d'argent. On est passé un cheveu. La crise de 2010, c'est différent, c'est une crise localisée qui ne concerne que la zone euro, parce que, à l'époque, le Premier ministre grec, qui s'appelait Papandreou, ouvre les placards en arrivant et il dit finalement le déficit est beaucoup plus important qu'on le pensait, les finances publiques sont complètement dévastées et du coup les investisseurs prennent peur et vendent massivement tous les titres en euros qu'ils détiennent, ce qui provoque leur chute sur les marchés financiers et du coup, mécaniquement, ils ne veulent plus prêter d'argent à la zone euro parce qu'ils ont peur que la Grèce emporte tout le monde par le fond.
D'accord.
Quand les investisseurs ne prêtent plus, les taux d'intérêt montent, c'est-à-dire que le prix de l'argent monte, il n'y a plus que les investisseurs les plus audacieux qui prêtent, mais seulement à prix très élevé. Et c'est ça qui a exercé une contrainte très forte sur la zone euro, parce que ça a asphyxié complètement la croissance, et il a fallu attendre 2012 la décision de la Banque Centrale Européenne pour faire baisser la tension, mais là aussi on est passé vraiment...
Et qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? C'était quoi la décision de la Banque Centrale ?
Il a fait à peu près ce qu'a fait Sarkozy. Il a dit « nous sauverons l'euro coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, c'est une expression qu'on connaît bien maintenant. En fait, Emmanuel Macron l'a reprise de Mario Draghi, qui à l'époque dirigeait la Banque Centrale Européenne. Et du coup, ça a donné à la communauté financière le sentiment que les Européens étaient décidés fermement à défendre leur monnaie. Et la tension est retombée, la crise s'est calmée.
Quoi qu'il en coûte, c'est votre ouvrage également chez Albin Michel. Donc vous aussi, vous l'avez reprise, cette fameuse expression. Quand on dit qu'on aurait pu perdre l'euro, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout à coup, on aurait nos propres monnaies, on recouvrirait une autre monnaie?
Oui. On a vu ça dans l'histoire quelquefois. Regardez ce qui s'est passé. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un pays qui s'appelait la Tchécoslovaquie. Il y avait une monnaie,
ils se sont
séparés, il y a eu deux monnaies. Ça s'est fait d'ailleurs de façon très paisible. Regardez ce qui s'est passé aussi au moment de l'éclatement de l'URSS.
Ouais.
Il y avait une monnaie, le rouble, et puis après, le rouble n'a plus concerné que la Russie. Et le Kazakhstan a eu sa monnaie, comme toutes les autres républiques indépendantes. Donc ce sont des processus, à l'aune de l'histoire monétaire, je ne dis pas relativement courant, mais qui arrivent. Généralement, ça coûte cher à l'épargnant parce qu'on en profite justement pour dévaluer de façon importante, ou bien c'est des périodes dans lesquelles l'inflation se déchaîne et du coup la valeur de l'argent diminue, donc la valeur de l'épargne diminue et généralement les citoyens en gardent un mauvais souvenir. Ça n'a pas été le cas, il faut quand même le souligner entre la Tchéquie et la Slovaquie.
D'accord. Et dites-moi, alors, si tout à coup on change de monnaie, parce que quand je vous écoute, je me dis, mais en fait, on est peut-être amené dans une vie à avoir plusieurs monnaies.
Bien sûr.
Non, mais vous me dites ça, bien sûr, mais moi je trouve ça dingue.
Non. Alors, ça arrive. Il y a des éléments de stabilité très importants. Le dollar, par exemple, est inchangé depuis la fondation des États-Unis, ou quasiment.
Ah ouais, donc là.
On a quand même eu le franc historique. Il a été créé au début des années 1800, le franc moderne, ce qu'on appelle le franc germinal. Sa valeur n'a pas changé jusqu'en 1913. Donc il y a aussi des longues périodes de stabilité. Mais le XXe siècle a été ponctué de crises monétaires parce qu'il y a eu des guerres et qu'en général, quand il y a des guerres, on s'endette pour financer justement l'armement et que quand on s'endette, ben généralement, la monnaie en subit les conséquences.
Quand il y a une décision comme ça, par exemple, d'arrêter une monnaie et quand il y aura la décision peut-être d'arrêter un jour l'euro, il faudra que tous les pays se consultent et se concertent à ce sujet. Comment ça se passe en fait? Comment on prend des décisions par rapport à l'euro aujourd'hui?
Dans l'idéal, c'est comme vous dites, en réalité, c'est impossible. Ça se fait de façon souvent brutale, sauf justement dans le cas où les deux partenaires, ou les trois, ou les dix sont d'accord. C'était le cas tchécoslovaque, mais dans une crise comme celle qui était la nôtre en 2012, où on a failli justement sortir la Grèce. Le problème, si vous voulez, c'est que dès lors que vous excluez la Grèce, par exemple, ou qu'elle-même sort, du coup, tout le monde anticipe la sortie d'après. Et on se dit, mais l'Italie va faire pareil, l'Espagne va faire pareil, la France va faire pareil. Et pourvu qu'il y ait une élection présidentielle au cours de la campagne de laquelle ce thème est évoqué, du coup, tout le monde spécule sur l'éventuelle explosion de la zone euro. Ce sont des mécanismes essentiellement psychologiques, mais qui sont tout à fait dévastateurs. D'où l'importance d'ailleurs de la confiance. La monnaie doit inspirer confiance. J'ai un billet de 20 euros dans ma poche.
Ah bah décidément, vous êtes vraiment... vous y allez, hein.
Je n'ai aucun doute sur sa valeur. Je vais vous le donner.
Oui.
Mais vous l'accepterez pour ce qu'il est, parce que vous savez très bien que dans 10 minutes, vous allez pouvoir vous en servir pour acheter un paquet de cigarettes. Et que la personne qui vous le prendra, elle-même n'aura aucun doute. On a tous confiance. C'est un bien transparent, on ne s'en rend pas compte. Mais ce bien-là... Il y a des périodes dans l'histoire où il se fissure. Et c'est là où la panique peut commencer et où on entre dans des expériences qui peuvent être très désagréables.
Je préfère qu'on aille boire un coup si ça
vous
dérange pas.
Oui, on fera ça. Allez. Et c'est moi qui vous invite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, on parle d'économie, on parle de l'euro depuis 20h en compagnie de notre invité François Langlais. François Langlais, comment se porte l'euro comparé aux autres monnaies dans le monde?
Tout dépend quels critères on prend. Vous avez rappelé tout à l'heure que l'idée c'était de concurrencer le dollar. C'est raté complètement.
Bon, alors
le dollar n'a jamais été aussi puissant. Alors, si vous prenez la masse monétaire en circulation, etc. Parce que derrière le dollar, il y a un État unique qu'on identifie bien. Il y a un patron, c'est le président des États-Unis. Comme disait Nixon il y a 40 ans, l'Europe, donnez-moi son numéro de téléphone. Mmh. On ne sait pas très bien qui y a derrière. C'est un système très compliqué, fédéral, que nous-mêmes, Européens, avons du mal à identifier. Donc ça pénalise l'euro et ça le pénalisera pour toujours, jusqu'au moment où, peut-être, il y aura un État intégré. Mais donc de ce point de vue-là, l'euro n'a pas atteint son but. Après, il a quand même conserver la valeur de l'épargne, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'inflation, mais une inflation modeste, qui a permis justement aux épargnants, ceux qui mettent de côté le fruit de leur travail, de pouvoir retrouver en gros la valeur de leur argent.
L'argent, il se dématérialise aujourd'hui aussi. On en parlait avec l'avènement du sans contact et depuis la crise de la Covid. Déjà, est-ce que la crise de la Covid a eu un impact sur l'euro ?
Pas directement. Il a eu dans le sens où vous l'évoquez, c'est-à-dire les paiements se sont beaucoup dématérialisés parce que justement c'était des paiements sans contact. Mais l'euro lui-même n'a pas réagi spécifiquement, son cours n'a pas été bouleversé par la Covid parce que c'était pas une crise européenne, si vous voulez, hein. C'était une crise mondiale. Tous les pays étaient frappés en même temps. Du coup, ça a neutralisé complètement les variations de l'un par rapport à l'autre.
Et donc, ça veut dire que, est-ce que vous pensez que l'argent va aussi, à un moment donné, disparaître de
c'est
nos
possible.
Mains
C'est possible. Alors, il y a des différences culturelles très importantes, parce que en Allemagne, par exemple, on est très attaché au liquide pour des raisons de confidentialité. Hein. Les gens disent, non sans raison, mais si on ne fait plus que payer en monnaie électronique, on saura tout ce qu'on fait.
On est tracé.
On est tracé. Et vous pouvez aujourd'hui acheter une voiture en Allemagne avec des billets. En France, c'est interdit.
Bah oui, carrément. Nous, on a le droit d'avoir jusqu'à combien de
jusqu'à 5 000 euros.
5 000 euros de liquide sur moi.
Et encore.
Et les paiements, d'accord.
Donc, vous n'avez pas le droit de faire des gros paiements en liquide. En Suisse, c'est la même chose. On est attaché à l'argent liquide pour des raisons culturelles. Dans les pays où il y a une tradition, je dirais, peut-être un petit peu, moins de respect vis-à-vis de la loi, et notamment de la loi fiscale, les dispositions sont plus strictes. Chez nous, notamment, en Italie, ça l'est encore bien davantage. Donc, on va vers cette dématérialisation. Elle est accompagnée quand même par le souhait du consommateur, qui trouve une certaine praticité, mais c'est vrai que ça pose quand même un problème de respect de la vie privée.
Voilà, et puis on n'aura plus ces fameuses pinces à billets qu'on avait à une époque, ces fameux objets là, comme ça, qui accompagnaient l'argent. Et vous avez raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, dépenser, c'est quelque part être soumis à une sorte de Big Brother qui nous
quand
suit.
Même. Bien
on sait tout ce que on sait, on sait tout ce que vous faites. On est donc ça, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu angoissant.
Ça va d'ailleurs avec la disparition de la vie privée de façon beaucoup plus large, l'essor des réseaux sociaux, le fait qu'on ait tous une caméra sur nos téléphones, etc.
Ouais.
Tout ça va dans le même sens pour nous rendre traçables dans tous les actes de notre vie quotidienne ou presque.
Quid des crypto-monnaies ? Est-ce que ça vient concurrencer l'euro, ça, par exemple ?
Ça pourrait, tout à fait, bien sûr. Ce sont des monnaies, alors là, vraiment privées, qui ne sont pas gérées, contrairement à l'euro, contrairement au dollar, contrairement au yuan chinois, par des organismes publics, les banques centrales nationales, mais qui sont gérées, initiées par des privés, et puis gérées par des ordinateurs. Quoi. Et on voit l'extraordinaire essor du bitcoin et de ses petits frères et sœurs.
Et qui est-ce qui crée les cryptos ?
Des cinglés d'informatique qui mettent au point les logiciels qui permettent justement la création automatique de ces monnaies, indépendamment de l'intervention humaine, ce qui les rend d'un certain côté plus fiables. Parce qu'une monnaie, encore une fois, le truc essentiel c'est la confiance, à partir du moment où elle est gérée par un gouvernement, le gouvernement peut avoir la tentation de s'en servir pour financer à tort ses dépenses indues. On voit ça en ce moment. Hein. Le quoi qu'il en coûte, Macron, c'est un petit peu ça. Auparavant, les souverains rognaient les pièces d'or pour récupérer la sûre et refondre des écus de façon à dépenser davantage. On fait exactement la même chose en ce moment. Avec une crypto-monnaie, c'est pas possible.
Ouais, c'est clair.
Parce que c'est la machine qui décide. Autrement dit, vous avez cette espèce de garantie de sécurité qui semble absolue. C'est vrai que s'il y a une panne d'électricité, vos bitcoins, il vaut mieux que vous ayez un peu d'argent liquide pour faire vos courses. Donc, c'est pas une sécurité totale. Mais dans la mécanique, on voit bien que l'essor des monnaies privées peut tout à fait concurrencer les monnaies nationales à terme.
D'accord. Et en même temps, aujourd'hui, ça spécule à mort quand même sur les cryptos. Hein. Il faut faire attention. Là, pour ceux qui nous écoutent, ça peut
dangereux.
Aussi être dangereux.
Hein. C'est très dangereux. Il y a des fluctuations considérables. Ce qui est possible, c'est que demain, vous ayez, comme au Moyen-Âge, 15, 20, 30 monnaies qui se font concurrence. le Monoprix, l'Amazon, le Bitcoin, l'euro, et que vous utilisiez les quatre, et qu'un peu comme au Moyen-Âge...
C'était déjà le bordel en 2002, alors écoutez, moi j'y retourne pas. Hein.
Non, c'est possible. Vous savez qu'au Moyen-Âge, il y avait des gens dont c'était justement la fonction sur les marchés que de sous-peser les pièces sonnantes et trébuchantes.
Ouais.
Le trébuchet, c'était la balance. Hein. Ouais. Et justement, de faire l'équivalence entre les différentes monnaies européennes ou les différentes monnaies utilisées pour qu'on puisse faire du commerce. C'est possible que ça revienne.
Eh bien, écoutez, en tout cas, en attendant, on peut s'intéresser et lire votre livre, Quoi qu'il en coûte, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup pour
Merci
ce cours d'écho. Et on est revenu sur ces moments, effectivement, pas si simples, de 2002. Merci à vous.